Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à des personnalités qui ont un impact positif, réel, sur l'autre, l'économie, l'environnement ou les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va. Si vous m'écoutez depuis quelque temps, vous l'aurez compris, j'admire les entrepreneurs et entrepreneuses et plus globalement les créateurs et créatrices, tous secteurs confondus. Je suis depuis toujours impressionnée par ces personnalités qui osent se lancer, se planter, mais continuent sans cesse animées par la passion. Et puis, il y a celles et ceux qui accompagnent ces personnalités, leur permettant parfois de vivre de leur création, et parmi eux, YouTube. Avec 2 milliards d'utilisateurs mensuels dans le monde, dont 40 millions en France, YouTube est désormais un accélérateur de talents incontournable. Et comme j'aime bien comprendre le pourquoi du comment des phénomènes de société, je vous propose une conversation avec un des plus jeunes pensionnaires de la Comédie française. Il partage sa loge avec Laurent Lafitte et lors du confinement, il a participé à la survie de l'industrie créative et culturelle en prenant une part très active à la programmation en ligne de la Comédie française sur YouTube. Retenez bien son nom, il s'appelle Biran Ba et vous allez entendre parler de lui si ce n'est pas déjà fait. Je suis donc très heureuse de partager cette interview avec vous, qui est aussi riche que porteuse d'espoir. Précision importante, cet épisode est sponsorisé par YouTube, mais promis, je ne l'aurais pas accepté si je n'avais pas eu le droit de garder ma liberté de ton et de parole. Alors bonne écoute, et surtout comme d'habitude, n'oubliez pas de partager l'épisode et de m'écrire pour me dire ce que vous en avez pensé. Biran, merci beaucoup de participer à mon podcast. Je suis vraiment ravie d'échanger avec vous aujourd'hui.
Grand plaisir.
Mais je demande toujours à mes invités, de se présenter, voilà, tout simplement. Autant perso que pro, enfin en nous disant ce que vous avez envie de nous dire.
Je m'appelle Biran Ba.
Ouais.
J'ai 27 ans. Je suis né à Vernon, en Normandie.
Ouais.
Et je suis comédien. Et voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je crois que...
Qu'on est à la Comédie française.
Et que je suis à la Comédie française, accessoirement.
Voilà.
Et depuis 3 ans.
Ouais.
3 ans que je suis pensionnaire à peu près. Donc 3 ans et quelques mois que j'ai intégré cette troupe parce que j'étais artiste auxiliaire auparavant.
On peut peut-être expliquer un petit peu ce que c'est la différence?
Ouais. Alors en fait, artiste auxiliaire, déjà il faut savoir qu'on rentre toujours dans la troupe à la place de quelqu'un.
C'est
souvent,
ça.
Souvent c'est pour remplacer quelqu'un.
C'est ça.
Et donc en fait, moi en l'occurrence c'était pour remplacer Julien Frison pour la tournée.
Mmh.
Et des Fourberies de Scapin.
Mmh.
Et donc voilà, ensuite mon chemin, je suis arrivé vraiment en tant qu'artiste auxiliaire, c'est-à-dire c'était uniquement dans le cadre de ce spectacle-là.
D'accord.
Pour la tournée.
D'accord.
Et par la suite, normalement, Julien Frison allait reprendre le rôle. Et à la suite de ça, du coup, je suis revenu en Richelieu à la suite de la tournée pour jouer le spectacle. Et ensuite, Eric Ruff m'a proposé le pensionnariat.
Mmh.
Et en fait, en tant que pensionnaire, c'est-à-dire qu'on sait quand est-ce qu'on rentre, mais on ne sait jamais quand est-ce qu'on va sortir. Et à savoir, voilà, c'est l'administrateur qui décide de qui entre dans la
D'accord.
troupe. Et ensuite, c'est plus lui qui décide seul de qui quitte
c'est
la
ça.
Troupe. Et là, on a un comité qui
c'est
change
vrai.
Tous les
mmh.
ans et qui décide de qui remercier. À savoir que nous, les pensionnaires, c'est tous les ans où notre dossier est remis sur la table.
Mmh.
Et les sociétaires, qui eux ont un autre statut, qui est, c'est sociétariat, donc eux c'est tous les 5 ans. Bon, après il y a encore des détails à l'intérieur,
mmh.
mais où on remet la place qu'ils ont dans la troupe
okay.
en question.
Ok, mais c'est bien de préciser, je pense, parce que les gens ne le savent pas forcément,
ne mmh.
connaissent pas le fonctionnement.
En effet, c'est vrai qu'il y a souvent, c'est une des premières questions qu'on a, mmh. c'est quelle est la différence entre les pensionnaires et
mmh.
les sociétaires.
Mmh.
Et en effet, il faut savoir que nous aussi, les pensionnaires, on est salariés aussi, donc c'est encore
mmh.
une autre
mmh.
chose.
Mmh.
C'est vraiment des systèmes qui sont totalement différents.
Oui, bien sûr. Biran, vous avez un parcours quand même très atypique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous êtes passé de Vernon à la Comédie française?
Alors moi j'ai j'ai commencé le théâtre quand j'étais au collège.
Ouais.
Et c'est donc mes professeurs, ma prof de français qui était Madame Salomon.
Ouais.
À la suite d'une poésie que j'avais fait devant devant la classe et qui m'a dit voilà, tu devrais faire du théâtre. Il y a un club théâtre dans le collège, donc tu devrais t'y inscrire. Et donc je m'y suis inscrit, mais vraiment sans savoir ce que c'était. Et ensuite, donc on a répété tout au long de l'année. Et suite à la première représentation, je crois que c'était dans la cantine du collège, parce que je crois que le théâtre il était en travaux à ce moment-là. Et j'ai vu la liberté que j'avais d'avoir un texte de base et puis ensuite de pouvoir improviser là-dessus et puis de voir les gens de la salle rire, sachant que c'était que des copains, donc du coup j'étais très à l'aise et je parlais beaucoup. Je parlais beaucoup beaucoup à l'époque. Les bavardages, c'était vraiment mon truc. Et donc, du coup, on me donnait de l'improvisation à faire. Et là, je m'amusais beaucoup. Et donc, du coup, je me suis dit, ah, ça, c'est quelque chose qui m'intéresserait. Et ensuite, mes professeurs de théâtre, Monsieur Morio et Madame Labia, qui m'ont guidé et qui m'ont dit, bah, en fait, tu sais que c'est un métier. Tu peux en faire quelque chose. Voilà, s'il y a des études qui ne t'intéressent pas, et ben, en tout cas, sache que tu peux être comédien. Et donc, ensuite, je me suis inscrit en seconde théâtre. À Évreux, qui est une ville, une plus grosse ville à côté de celle de Vernon. Et là, en fait, c'était la seconde avec l'option théâtre. Et donc là, j'ai appris vraiment les bases du théâtre, qui est la notion de l'espace, du corps, etc. Et là, je me suis dit vraiment, c'est vraiment ce que je vais faire. Donc, suite à ça, j'ai continué mes études. Donc, je suis revenu à Vernon, j'ai fait un bac ES, parce que la littérature, c'était pas trop mon truc. Et donc là, j'ai fait le conservatoire de Vernon, le conservatoire municipal de Vernon, de théâtre. Et à la suite de ça, j'ai fait un BTS commerce international à Rouen, toujours au conservatoire de Rouen, là, cette fois-ci. Donc là, je suis passé à un conservatoire régional. Et là, je me suis dit, bon, là, je sens que je vais avoir mon BTS. Il faut absolument que je parte à Paris, que je tente ma chance, quoi. Et donc, j'ai passé le concours de la classe libre, des cours Florent et le concours du conservatoire. Le conservatoire, ça l'a pas fait. Et donc, j'ai eu la classe libre. Et là, j'ai dit à ma mère que je partais pour 2 ans, parce qu'en fait, la classe libre, c'est un cours libre, donc qui est gratuit pour les personnes qui passent le concours. Et en fait, on a les cours du matin, le matin, avec les élèves, on va dire, du cursus normal. Et l'après-midi, en fait, on a des masterclass. Et donc, du coup, c'est un peu plus intense. Et voilà, ensuite, j'ai eu le conservatoire. Et ensuite, je suis entré à la Comédie Française.
J'aime bien parce que vous en parlez comme si ça avait été hyper simple, enfin comme si ça coulait de source, mais je pense qu'il y a quand même eu des difficultés. Enfin, est-ce que vous avez eu le sentiment d'avoir traversé des difficultés au long de ce parcours
ou... En fait, ce parcours, en fait, finalement, il est très classique. C'est-à-dire que, étant donné que j'ai fait tous les conservatoires différents, j'ai brûlé aucune étape. Enfin, je pense pas en tout cas, parce que j'ai fait les conservatoires municipaux, régionaux, ensuite national.
C'est ça.
J'ai appris, ça faisait des années. Je pense pas que ça a été simple. Je pense pas, mais en tout cas, je pense que j'ai surtout été bien aiguillé. Et j'ai toujours eu des professeurs absolument merveilleux et qui ont été absolument bienveillants et qui m'ont fait confiance surtout. Et qui m'ont jamais restreint. Ils m'ont dit, attention, ça risque d'être compliqué. Surtout quand je leur donnais justement mon rêve d'entrer à la Comédie Française, c'était un objectif. Et en fait, ils ont fait que de me pousser. Et donc, j'ai pas eu de gros obstacles finalement. Parce que le plus gros obstacle qu'on puisse avoir, déjà, c'est nous-mêmes ou notre entourage. Et par rapport à ça, moi, personnellement, j'en ai pas eu. Après, c'est. Comme tout étudiant, voilà, c'est de devoir travailler à côté et aussi de devoir faire ses preuves et donc de travailler 2 fois plus, du coup forcément de faire des sacrifices. Mais je pense pas,
je pense pas que peut-être pas ressenti comme tel, quoi.
Non, en effet, ouais. Au contraire, parfois je me dis même que ça a été trop simple. Quand je vois tous mes copains qui sortent du conservatoire ou de classe libre, etc., voir à quel point c'est mouvant, pardon, d'avoir des projets ou pas. Et en fait, moi, finalement, j'y suis allé étape par étape, mais assez facilement, en fait, finalement. Ouais, j'ai pas rencontré de moments de vide, par exemple.
Vous parliez de vos professeurs qui vous ont aidé. Est-ce qu'il y a des personnalités, peut-être, ou des personnages qui vous ont aidé pendant votre parcours, indépendamment de vos profs?
Alors, indépendamment de mes profs...
Je sais pas, vos parents, ça peut être des rencontres d'acteurs, de comédiens...
Moi, j'avoue que c'est surtout mes professeurs. Donc, que ce soit de théâtre ou même de cours, qui y croient. Et ensuite, à l'extérieur, bah forcément, on remerciera toujours nos parents et tous nos proches, mes sœurs, etc., et mon petit frère. Mais sinon, c'est plus des rencontres d'artistes. Je n'ai pas de nom à citer, mais c'est plus... j'ai l'impression qu'en fait, la vie, elle est faite qu'il faut qu'on rencontre certaines personnes à un moment donné.
Bien sûr.
C'est difficile, en fait, de savoir pourquoi et qu'il y a un déclic qui se fait. Et en fait, carrément, ça nous pousse. Et là, je n'ai pas d'exemple à vous donner. Et moi, j'écoute beaucoup d'interviews. Et forcément, en fait, ça mûrit... voilà, j'ai rencontré aussi beaucoup d'acteurs et d'actrices, surtout à travers un écran. Mais ouais, franchement, les piliers surtout de cette traversée-là que j'ai faite jusqu'ici, c'est surtout tous les profs que j'ai eus dans les différents conservatoires.
Aujourd'hui, vous avez 27 ans ?
Ouais.
Ouais. Donc ça fait de vous, en fait, un des plus jeunes pensionnaires de la Comédie Française.
En effet.
Qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que ça vous fait éprouver ? Comment ça se passe ? Enfin,
c'est...
Il y a peut-être des gens qui vous prennent un peu sous leur aile, ou je ne sais pas comment ça...
Bah, disons que c'est impressionnant. Moi, j'y suis arrivé, je crois que j'avais 24 ans quand je suis arrivé ici.
Et c'était septembre 2018, je crois.
Exactement, ouais. C'est ça. C'est exactement ça. Et forcément, j'étais impressionné. Et en fait, le fait de voir qu'il y ait tout simplement des monstres du théâtre, donc c'est des personnes que j'admire absolument et qui ont une facilité et une intelligence des mots qui m'impressionne vraiment beaucoup. Et donc au début, j'étais très impressionné et honoré aussi, surtout parce que c'était un de mes rêves d'entrer dans cette troupe. Donc au début, on a un peu l'impression d'être face à une institution, avoir quelque chose qui est plus grand que nous. Et on se dit, mais en fait, je vais jamais pouvoir...
Ça fait peur.
Ça fait peur au début. Ça fait peur parce qu'on se dit, est-ce qu'on a les épaules pour... On se pose vraiment cette question. Parce qu'on sait qu'on va devoir travailler beaucoup. On va devoir faire nos preuves sans cesse. Aussi, ça, c'est la particularité de la troupe, c'est que rien n'est acquis. Et surtout dans ce métier-là.
Bien sûr.
C'est qu'on travaille tout le temps avec des metteurs en scène différents. Et donc, du coup, nos preuves, on doit les refaire. Et surtout, c'est un métier aussi qui demande beaucoup de doutes. Et comment dire ?
Il n'y a pas d'acquis, quoi.
Oui, voilà, exactement. Et donc au début, voilà, mon arrivée était très impressionnante, mais j'étais surtout content, en fait, parce qu'on a commencé par une tournée. Donc du coup, j'ai rencontré la troupe vraiment de manière un peu plus intime. Et suite à ça, quand j'ai vraiment intégré la troupe, et en faisant les spectacles en Richelieu, là, je me suis dit, ok, bon, bah là, maintenant, c'est vraiment un métier où c'est vraiment dans la longueur, en fait, qu'il va falloir tenir. Et en voyant aussi des grands acteurs et des grandes actrices toujours à se remettre en question, à demander des conseils, même à moi, en tant que jeune comédien, en me demandant mon avis, comment j'étais là sur cette scène, etc. J'étais honoré. Et en fait, je me suis dit, mais bien sûr, en fait, rien n'est acquis. Et en fait, la troupe est importante pour ça.
Bien sûr.
C'est de compter les uns sur les autres. Et une des premières choses aussi que je me suis dit, ça, c'était sur le Bajazé, où Eric Ruff m'a confié le rôle-titre de Bajazé, de Racine. Et là, je me suis dit, en fait, en voyant les retours et de quelle manière les retours étaient faits et l'intelligence du texte. Et là, je me suis dit, ok, en fait, je suis entouré de l'équipe de France du théâtre. En fait, il y a juste des Mbappé, des Griezmann qui sont autour de moi, quoique même plus vieux, donc, et avec beaucoup plus d'expérience. Et là, je me dis, ok, et surtout, on a besoin les uns des autres.
Ouais.
S'il n'y en a pas un ou une qui n'est pas là au rendez-vous, forcément, il y a un déséquilibre qui se crée. Et on ne peut pas créer de théâtre collectif comme ça sans les autres. Et ça, c'est très fort. C'est très, très fort. On n'est pas seul, quoi.
Ouais. On se sent partie d'un tout.
Exactement.
Indissociable.
Exactement.
Ouais. En quoi consiste réellement votre profession ? Je sais que c'est un peu bête comme question. Enfin, c'est bête sans l'être vraiment, mais voilà... En quoi ça consiste, en fait, une journée de Biran ? Et puis surtout, qu'est-ce que vous préférez dans ce métier ?
Alors, mon métier, c'est d'apprendre un texte. Ça, la partie la moins amusante. et en même temps, celle-ci, elle est amusante parce qu'en fait, on a une première lecture. C'est-à-dire qu'étant donné qu'on n'a pas encore rencontré les metteurs en scène, du coup, en fait, c'est la première image, les premières idées qu'on a d'un personnage. Et donc, en fait, finalement, c'est tout l'imaginaire déjà qui commence à se créer. Mmh. Et finalement, c'est aussi intéressant l'apprentissage de texte, même si c'est un peu plus laborieux. Mmh. Mais après, une fois qu'on se débarrasse de ça, eh ben, il y a le moment où on va commencer à répéter. Mmh. Et là, avec, là, c'est le choc des visions. Mmh. Donc, du metteur en scène, mmh. des comédiens et aussi de la proposition des autres comédiens. Et donc là, il y a tous les univers qui se créent. Mmh, mmh. Et donc ça, c'est la deuxième étape. La troisième, qui est celle qui est la rencontre, cette fois-ci, avec le public. Mmh. Et là, c'est très particulier parce que quand on crée un spectacle, on ne sait jamais où on va. Mmh. Et on se rend compte de ce qu'on fait souvent avec le public. Donc, parce que dans les salles de répétition, voilà, on est entre nous. Mmh. Et voilà. Et là, ça peut être un choc positif comme négatif aussi. Mmh. Parce qu'on imaginait des choses, on pensait qu'elle est, par exemple, une réplique va faire rire, une réplique, au contraire, en fait, à ce moment-là, on va faire pleurer. Ouais. Et en fait, pas du tout. Ouais. Et là, on se dit, mince, ça marche pas, bon, bah, on rectifie le tir. Et
c'est alors, évolutif, ouais.
Voilà, mmh. c'est exactement. Mmh. Et donc voilà, ça, c'est notre métier. Et aussi, moi, la partie que j'aime le plus, c'est surtout de rêver de mes personnages. Mmh. C'est-à-dire qu'une fois que... j'ai la vision du personnage avec la vision du metteur en scène, c'est ensuite de m'endormir avec le texte du personnage et de trouver vraiment les moindres détails. Et souvent, en fait, quand on est en création et même quand on joue aussi souvent, même ici, par exemple, on peut jouer des spectacles pendant plusieurs saisons, mm-hmm. de suite ou pas. Mm-hmm. Et souvent, il y a des répliques qui nous apparaissent comme évidentes. C'est-à-dire que le metteur en scène va nous donner une indication particulière pour cette réplique-là. Et ensuite... une fois que le spectacle commence à nous appartenir et une, parfois même la nuit ou le matin je me réveille, je me dis mais bien sûr en fait cette réplique là mmh. elle veut dire ça parce que mmh. si parce que ça mmh. et ça c'est génial et ça ne s'arrête jamais ouais. ça ne s'arrête jamais ouais. Et voilà, ça c'est vraiment la partie que j'aime le plus, c'est mmh. de rêver de mes personnages mmh. et parfois même j'ai des personnages avec qui je parle ou je me dis voilà, ou je suis à la terrasse d'un café et je me dis comment est-ce que ce personnage là regarderait le monde,
bien sûr,
sous quel œil. Qu'est-ce qu'il penserait de chaque événement, voilà, un klaxon, mmh. comment est-ce qu'il réagirait, ouais. Voilà, sur et ça c'est vraiment la partie que j'aime mmh. le plus parce que c'est vraiment la rencontre avec le mmh. personnage.
Bah justement, quel est le personnage ou les personnages qui vous ont le plus marqué jusqu'à présent? Parce que je suppose qu'il y en aura d'autres à l'avenir. Hein.
Déjà il y en a plusieurs.
Ouais, forcément.
Je n'en ai pas fait beaucoup, mais il y en a quelques-uns forcément qui m'ont marqué. Je dirais soit Pierrot. Dans... ah, c'est drôle parce que c'est vraiment deux personnages de Molière. Soit Pierrot dans le Don Juan de Molière, mmh. là c'est dans une mise en scène d'Anne Coutureau, ou Octave dans mmh. Les Faubourgs Escapins. Mmh, mmh, mmh. Mais aussi parce que je pense qu'ils étaient symboliques, c'est-à-dire que Pierrot c'était déjà mon premier personnage que j'interprétais mmh. en tant que comédien professionnel. Et Octave c'était mon premier personnage au sein de la troupe. D'accord. Donc il y avait ça aussi. Ouais. Mais aussi la langue, l'amusement. Mais je dirais plutôt. Ouais. Pierrot, parce que j'ai eu tellement d'affection pour ce personnage. Il est tellement touchant parce que tellement naïf et en même temps avec une telle bonne volonté d'aimer, sauf qu'il s'y prend mal. Et c'est une des plus belles histoires d'amour en fait, racontées dans cette pièce parce que c'est l'amour impossible et il se demande pourquoi. Et c'est absolument magnifique, je trouve. Et il est très touchant.
Puis c'est super actuel aussi. C'est pas très démodable, en fait, comme truc. C'est que les gens s'en rendent pas compte, mais finalement, c'est pas si démodé que ça.
Bien sûr. Mais ça, c'est des sentiments, en fait, qui sont universels, qui traverseraient le temps. Je pense encore, dans 400 ans, on reparlera de ces pièces, de ces personnages-là, et qui seront interprétés aussi de manière différente. Mm. Bien sûr, parce que le temps change, parce que les corps changent, parce que les voix changent, parce que... Par contre, la langue sera toujours la même.
Ouais,
la manière d'être traité sera toujours...
J'espère, si ça se peut.
J'espère, bien sûr. Mais je pense.
Ouais.
Je pense. En tout cas, j'ai l'impression que la Comédie française aussi elle reste garante de ça. C'est-à-dire que.
Ouais, je suis d'accord avec vous.
Depuis 400 ans, mot pour mot, on garde toujours ce texte-là et d'en faire quelque chose de simple et d'évident aussi. C'est comme Racine aussi, c'est pareil. C'est des langues qui ne sont pas évidentes de prime abord, qui ne sont pas naturelles comme Racine. Et en fait, finalement, de se dire ok, on est d'accord, on fait du théâtre, ok, c'est écrit en vers, voilà, il y a toute une métrique. Mais venez, on écoute ce qu'il dit. Et là, en fait, il y a juste les sentiments qui arrivent et en fait, on oublie tout ça.
Je reviens un petit peu en arrière, mais pendant le confinement, en fait, donc tout le monde le sait, les théâtres étaient fermés, enfin, la culture a pris un sacré coup. Mmh. Vous avez été un membre actif de ce qu'on peut appeler le théâtre digital via la chaîne YouTube de la Comédie Française. Cette programmation en ligne, bah, elle a permis de continuer à jouer pendant la pandémie. Déjà, est-ce que vous pourriez nous raconter cette période qui est quand même hors du temps, enfin inédite et jamais vue, enfin c'est quand même un truc, voilà, sans comparaison.
Ouais. De notre époque, ouais, ouais. Surtout.
Et pour vous et certainement d'autres acteurs. Donc comment vous l'avez vécu ce moment-là ?
Alors, il y a eu plusieurs étapes. Déjà, on a tous été choqués. Voilà, déjà même pas en tant qu'acteur, c'est déjà en tant que personne. De devoir être enfermé chez soi et qu'il n'y ait plus de vie finalement à l'extérieur et que ce soit finalement que les métiers qu'on dit essentiels. Et donc forcément il y a eu un choc, c'était de se dire bon bah finalement la première question c'est à quoi est-ce qu'on sert. Et même en tant que comédien aussi c'est finalement mon métier qu'est-ce que c'est en fait. Puisque on peut s'en passer, je me suis vraiment aperçu de ça, c'est qu'on pouvait se passer premièrement hein, de nous. C'était et ensuite une fois et donc voilà et en fait moi je me suis toujours dit qu'il fallait que même si je veux être comédien, ça va pas forcément être facile et je le serai peut-être pas toute ma vie. Mmh. Donc il faut toujours que je me dise que je peux faire un autre métier, comme toutes les personnes, parce que toutes les personnes finalement ne font pas leur métier de rêve.
Je suis d'accord.
Et
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Donc il y en a plein qui font des métiers par défaut et parce qu'ils n'ont pas le choix. Et donc je me suis dit, il faut que je puisse faire comme tout le monde, c'est-à-dire rebondir. Et voilà, par exemple, j'étais vendeur chez Bouygues Télécom où je travaillais dans les centres de loisirs. Voilà, et il faudrait que je sois capable aussi de rebondir suite à ça. Et donc vraiment, là, je me suis dit, ok, bon, bah, finalement, je suis comédien. Possiblement, ça peut se terminer, en effet, très rapidement. Et donc vraiment, là, je me suis posé cette question. Je me suis dit, finalement, on n'est pas si nécessaire que ça. Et est venue l'étape où la Comédie Française nous a appelés, nous a dit en fait ce serait bien de créer d'autres formes. Mmh. Et là c'était tout nouveau, c'est-à-dire que c'est la première fois où les comédiens de la troupe se livrent autant. Donc on lisait des poèmes, on présentait aussi toute une émission en fait. Donc c'est-à-dire qu'il y a eu tout un programme avec donc des lectures de poèmes, des lectures de contes. Il y a eu aussi c'était tellement varié. Et aussi le soir aussi, d'ailleurs, il y a eu aussi des captations tous les soirs. Mmh. Et donc, il y avait un rapport très intime avec le public et une manière, en fait, de voir les comédiens voilà, chez eux. Mmh. Voilà, habillés normalement et non plus en costume. Et donc, du coup, en fait, on a cassé en fait, toute cette image de la Comédie Française. Et même au sein même de la troupe, on s'est découvert. Alors qu'il y en a que ça fait plus de 20 ans qu'ils se connaissent. Mmh. Et donc, ils se sont connus aussi d'autres manières. Et c'était super agréable à faire. Et donc au début on s'est dit waouh, qu'est-ce que c'est, parce qu'on n'a pas l'habitude de faire ça, nous tout ce qu'on sait faire c'est jouer, et là maintenant il va falloir qu'on livre des choses. Et c'était absolument magnifique parce que chacun était dans sa solitude, voilà, entouré ou pas, et qu'il y avait un endroit où en fait il y avait finalement une sorte
de lien
exactement, et de solidarité aussi. Et parce qu'on avait de retours sur, à chaque tous les jours, vous vous rendez compte, moi je voyais ça aussi tous les jours, c'était de voir et de donner des retours, d'envoyer un message pour dire c'était magnifique ce que tu as fait et tout. Et là on se dit ok, en fait finalement même si le monde on a l'impression qu'il est arrêté, en fait l'art continue. Et ensuite de ça on a eu le retour du public,
c'est ça, c'est ma prochaine question.
Et ça, c'était merveilleux. Parce qu'en fait,
vous avez peut-être eu le sentiment de jouer, ben là, pour le coup, devant plus de monde que d'habitude. Parce que c'est ça aussi la force de YouTube, c'est que ça vous a permis de vous exposer à un public qui, peut-être, à la base, n'allait pas payer son billet pour venir à la Comédie Française. Et que du coup, peut-être que ça a représenté, des opportunités dans votre carrière. Peut-être que vous avez été connu. Bah, la preuve en est par plus de monde qu'initialement. Moi déjà, j'avais été intéressée parce que pendant le confinement, j'ai voulu regarder plus que d'habitude YouTube. Donc je me suis baguenaudée un peu et puis forcément, je suis tombée sur des lectures, enfin des choses qui moi me paraissaient fantastiques. Et voilà, donc quand même, ça doit faire un choc parce que vous vous êtes dit, voilà, le public, il est augmenté, quoi, direct.
Exactement. Et surtout, alors là, ce qui était particulier, c'était qu'on était face à un écran. C'est-à-dire que quand on faisait nos vidéos,
oui,
on
était tout seul. Ouais.
Et de voir l'impact que ça puisse avoir chez toutes ces personnes qui sont chez elles et qui réellement nous suivent tous les jours, tous les jours, et qui découvraient la troupe. Et là, on s'est dit, en effet, en fait, il y a
un autre monde.
Oui, ouais. Bien sûr. En fait, il y a tout un monde qui est grâce à Internet aussi, auquel on peut aussi montrer beaucoup de choses. Et qu'en fait, voilà, toutes les personnes qui ne peuvent pas avoir accès à la troupe, pour venir à la Comédie Française. Et en plus, on envoyait des captations aussi le soir. En fait, il y avait cet accès à la culture qui a été donné à tout le monde de manière gratuite.
Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait qu'il faut que le théâtre aille vers plus de monde et communique un peu plus, quoi.
Exactement. Et ça, c'est très important. Et je suis sûr que d'ailleurs, ça va créer d'autres...
Moi, j'ai vu. Bien sûr.
Là, on fait du théâtre à la table, qui va être diffusé encore sur YouTube.
J'ai vu une scène où il y a des acteurs autour d'une table, c'est ça ?
Exactement, c'est ça.
Ben, je l'ai vu, c'est diffusé.
En fait, il y en a plusieurs, en fait. Ah, c'est-à-dire que c'est plusieurs pièces qu'on fait. Et donc, il y a un metteur en scène, en fait, on donne une semaine. Ouais. Donc on arrive avec les comédiens le lundi, le vendredi, à la base ça c'était pendant la fin du deuxième confinement, etc. Ouais. C'était du lundi au vendredi, on répète un spectacle l'après-midi, parce que c'est les horaires. Et ensuite le vendredi soir, on enregistre en one shot, le samedi c'est diffusé. Et en fait c'était une manière aussi de montrer comment en fait, ça c'est la première étape du travail qu'on a, qui est quand on répète un spectacle, on débute, on arrive avec un texte pas su généralement, et... Comment est-ce qu'on fait pour pour trouver déjà les premiers éclats de théâtre qui peuvent
Sympa d'ailleurs à regarder, je trouve.
C'est agréable.
Ouais, c'est très surprenant. Agréable. Ouais.
Oui.
On a l'impression qu'on est avec eux.
Exactement. Et donc en fait, on donne accès au public à ces choses auxquelles on n'a jamais accès. Et donc voilà. Du coup, là, par exemple, là, on continue les théâtres à la table. La semaine dernière, on en a fait un qui était celui de Georges Dandin, mis en espace par Hervé Pierre, qui l'a mis en scène il y a quelques années. Et donc là, cette fois-ci, en fait, ce qui était particulier, c'est qu'il y avait le public aussi. C'était au Théâtre du Vaux-Colombier. Et donc là, ils pouvaient assister à une chose qui se crée, sachant que c'est surtout à destination du public digital.
Bien sûr.
Et donc ça, c'était absolument merveilleux parce qu'on avait les retours et en même temps, puisque là, par exemple, on était microtés et on avait le retour du micro dans la salle. Et on se dit toujours que c'est pour la caméra et c'est pour les personnes qui sont dans tout le monde entier qui vont nous voir en gros plan, etc. Et en même temps, il y a le public qui assiste à ça. Et ça, c'est merveilleux. Donc ça, c'est une nouvelle forme. Et je pense qu'il y aura... Là, on voit qu'il y a beaucoup plus de vidéos, d'ailleurs, dans les spectacles. Et il y en aura de plus en plus.
Bien sûr.
Et c'est... Voilà, en fait, tout simplement, on assiste à un changement, en fait, du théâtre. Il y aura toujours le théâtre classique qui existe, d'ailleurs. On peut le voir encore en Richelieu ou alors dans les autres salles. Et en même temps, il y a d'autres formes qui sont créées.
Qui émergent, ouais.
Et voilà, c'est... En fait, c'est beau de voir que l'art évolue et qu'on assiste à cette évolution-là.
Du coup, vous auriez une recommandation à donner, je ne sais pas, au public là, qui nous écoute. Votre premier beau projet de culture sur YouTube, là, vous diriez quoi ?
Alors, un beau projet sur YouTube...
Qu'est-ce que vous recommandez ? Enfin, je ne sais pas. Moi, je sais que j'ai écouté Proust, lu par Galienne, j'ai trouvé ça fabuleux. Je ne sais pas, est-ce que vous avez en tête une petite reco ou,
Alors, moi, je n'ai pas regardé beaucoup de projets, par exemple de spectacles sur YouTube, etc. Par contre, je regarde beaucoup tout ce qui est, là, c'est plus de la culture générale ou scientifique, etc. C'est, en fait, je suis beaucoup de youtubeurs. Par exemple, il y a, tout à l'heure, on parlait d'Hugo Décrypte, mais là, ça, c'est plus dans le journalisme, mais par exemple, dans l'histoire, on a Nota Bene, qui est absolument formidable. C'est dans la vulgarisation de l'histoire. Et en fait, il est super jeune et super pédagogue et en même temps super passionnant.
C'est vrai.
Donc, il y a lui. Il y a aussi dans la culture scientifique, cette fois-ci, il y a Dr Nozman, qui est absolument formidable aussi. Et en fait, on a l'impression... de découvrir tellement de choses en si peu de temps. C'est ça qui est génial, en fait. C'est les courts formats.
C'est ça.
Et étant donné qu'en fait, c'est des jeunes, il y a Poisson Fécond aussi.
Poisson Fécond, exact.
Qui est génial et qui sont tellement intéressés et intéressants et passionnant. Mmh. Et donc, en fait, on regarde cette vidéo de 10 minutes et en fait, on a l'impression vraiment de s'élever. Mmh. Et surtout qu'ils nous apprennent des choses parfois qu'on a pu apprendre à l'école.
Ouais. Et qu'on a peut-être un peu oublié.
Et qu'on a oublié parce que forcément, en fait, c'est des choses qui nous sont imposées. Et on ne comprend pas forcément en fait, à l'école pourquoi on apprend des choses. Et que, surtout dans la science, par exemple, on se dit.
Voilà, et on comprend un peu plus tard, malheureusement. Voilà, on aurait dû peut-être un peu plus creuser.
Exactement. Et là, ce qui est génial, c'est qu'en fait, c'est donné à tout le monde, que ce soit pour les jeunes, que ce soit pour les plus âgés. Mmh. Et là, en fait, c'est nous. En fait, qui allons vers la culture, elle ne nous est pas imposée, mais c'est nous qui y allons.
Je suis d'accord, ouais.
Et en fait, c'est d'autant plus agréable, on apprend beaucoup plus de choses.
Bien sûr, bien sûr.
Il y a aussi, même dans la philo, par exemple, là, en ce moment, il y a le précepteur, en fait, qui, pareil, arrive et en fait, pendant 40 minutes, va nous expliquer un thème, un sujet précis par rapport à un philosophe et qui est absolument passionnant. Donc, ça s'écoute comme un podcast pendant qu'on fait la vaisselle ou le ménage.
C'est clair.
Et donc, voilà, les cours de philo, suffit qu'on n'ait pas un prof de philo qui est passionnant ou passionné, parce que ça arrive aussi.
Ouais.
Et là, justement, mais c'est génial, quoi. On apprend beaucoup de choses. Donc, moi, c'est plus ces choses-là.
C'est des beaux exemples. Non, mais c'est bien parce que je les avais en tête. Enfin, j'en avais deux en tête, mais effectivement, c'est bien de le rappeler. Est-ce que vous auriez des projets dont vous avez envie de nous parler, des choses qui vont arriver dans un futur proche, mais que vous pouvez révéler
Là déjà, il y a le Georges Dandin, le théâtre à la table de Georges Dandin, qui va être diffusé bientôt, dans quelques jours.
Ouais.
Ensuite, là en ce moment, je joue Dorian la nuit, qui est une mise en scène de Johan Gazerowski, qui est un pensionnaire de la troupe et qui est génial parce que c'est un impromptu musical. Donc on chante du baroque, on interprète Molière, Lully, et en même temps on interprète tous les membres de la troupe de Molière à cette époque-là.
C'est incroyable.
Et en même temps avec des mots de nos jours, donc c'est un peu les Molière, Lully, Armand, Béjart, 2.0 quoi, de nos jours. Et donc il y a toujours, et donc il a été très documenté, il a travaillé avec Vincent Leterme qui est le collaborateur musical, cette fois-ci pour tout ce qui est musical. Et donc c'est passionnant parce qu'il y a un côté très pédagogique, pour apprendre aussi beaucoup de faits historiques avérés. Et en même temps, il y a aussi cette part de fiction sur le rapport entre Molière et Lully, où finalement, en fait, Molière, on a très peu d'écrits sur lui, et on a très peu de notes, enfin, on n'en a aucune. C'est-à-dire que tous ces écrits, des pièces, etc., on ne les a pas, on n'a que ces textes.
C'est vrai.
Et donc, du coup, ça laisse une part d'imaginaire. Et là, justement... Johan a foncé dedans et donc du coup il y a des éclats de théâtre et on rigole et on chante du baroque et donc c'est absolument génial à faire dans un petit format d'ailleurs, c'est une heure, c'est au studio théâtre. Et là en ce moment je tourne un film qui s'appelle J'ai croisé le loup, qui est un film de Jeanne Herry et qui est sur la justice restaurative, qui est en fait un processus,
c'est un
processus en fait où on a des victimes. Et on a des personnes, par exemple, qui sont emprisonnées ou alors qui sont sorties de prison et qui ont fait, par exemple, à peu près les mêmes faits que les victimes. Et en fait, il y a toute une association en fait, qui fait tout un accompagnement pendant plusieurs mois pour voir si les victimes sont vraiment prêtes à rencontrer des personnes qui ont fait à peu près les mêmes agressions. Et en fait, ça leur permet à elles de cicatriser un peu leurs blessures, même si la justice pénale est passée. Et de l'autre côté... que les agresseurs aussi puissent se rendre compte de certaines choses. Donc, ils font tout un cheminement aussi. Et c'est, en fait, c'est absolument magnifique parce c'est quelque chose qui est très peu connu, qui existe depuis quelques années, très peu d'années. Et en fait, ça permet en fait, d'avoir une autre justice qui est un peu plus humaine qui permet justement aux victimes de se réparer et de dire ce qu'elles ont à dire.
C'est intéressant, je ne savais même pas que ça existait.
Ouais, bah voilà, c'est justement, Jeanne Herry travaille là-dessus, et justement, elle se concentre souvent sur des sujets pas très connus du grand public, et qui s'informe vraiment grandement là-dessus, et qui fait que les dialogues, déjà, sont absolument magnifiques, et surtout, en fait, c'est l'évolution des personnages, parce que c'est un film aussi très choral. Et donc, en fait, c'est de voir un peu l'évolution, comment les victimes, justement, vident leur sac, en fait, sur des personnes qui ne sont pas leurs agresseurs, mais en même temps disent voilà, qu'elles n'ont pas pu se reconstruire pendant plusieurs années et qui, certaines, n'arrivent même plus à sortir de chez elles. Mmh. Et comment aussi les agresseurs aussi vivent leur, incarcération. Ouais. Et comment est-ce qu'elles ont réfléchi aussi sur ce qu'elles ont fait, et elles se rendent compte du mal qu'elles ont pu faire indirectement, en tout cas là dans ce cas de figure. C'est-à-dire que expliquer aux victimes que c'est pas elles qu'elles ont voulu, mais c'était à la caisse, tout simplement. Et malheureusement, il y a eu des dommages collatéraux, et justement, résoudre tous ces problèmes et comprendre en fait les deux points de vue, et c'est absolument magnifique. Et voilà, donc on tourne ça en ce moment, et c'est super passionnant à faire.
Donc le cinéma arrive à grands pas.
Ouais, le cinéma commence. Vraiment, ça a mis un peu de temps. Et je pense qu'il y a des choses que j'ai pas compris dans le jeu cinéma, parce que c'est totalement
très différent
en fait. C'est beaucoup plus intense, c'est beaucoup plus petit, c'est très subtil en fait. Et alors qu'au cinéma c'est un peu plus grand, voilà, on a tout un public. Et donc voilà, il y a plein de choses que j'ai pas comprises, et encore d'ailleurs toujours la présence de la caméra me gêne parfois, parce que je la trouve très intimiste.
Puis c'est coupé aussi, c'est-à-dire qu'au cinéma on tourne pas du tout de la même manière.
Exactement.
C'est des 3 minutes, des 2 minutes, des 30 secondes,
voilà.
Voilà, donc c'est pas
ça.
Du tout la même chose.
Exactement.
Même, ne serait-ce que le texte, c'est
totalement différent. Et donc voilà, donc c'est super intéressant. Donc voilà, après j'ai fait une série qui s'appelle Les Sentinelles. C'est sur les membres de l'armée française de l'opération Barkhane, donc ils sont au Mali. Donc là, on a tourné au Maroc. Et donc voilà, dans le désert. Et puis c'est aussi pareil, voir l'évolution de ces jeunes soldats qui découvrent en fait finalement la guerre. Voilà, c'est toute une série là-dessus. Et c'était passionnant à faire.
C'est une série pour qui ?
Pour OCS.
D'accord.
Et ça va sortir normalement au mois d'avril sur OCS.
Magnifique.
Et c'était passionnant à faire. Et pareil, on a plongé dans un univers. Et c'est ça qui est génial dans notre métier, c'est de plonger dans des
plusieurs
univers
vies.
Totalement différents.
D'avoir plusieurs
plein
vies.
Plein de vies, plein de témoignages en fait. Et voilà, on donne vie à des personnages et de les rendre le plus universel possible. Et ça, c'est absolument magnifique. Et voilà, et puis plein de petits projets. Voilà, et le Gavras aussi, Romain Gavras, avec qui on a fait un film il n'y a pas longtemps, qui est absolument magnifique. Il va s'appeler Athéna, normalement. Qui va passer sur la plateforme Netflix. Et c'est là, c'est sur. Qui part en fait d'une base de bavure policière, et c'est montré jusqu'où ça peut aller. Donc, c'est vraiment une dystopie un peu. Ça part très très loin. Et c'est absolument magnifique, plein de plans séquences.
Mais vous arrêtez pas, vous arrivez à dormir la nuit ou pas ?
Ah, c'est compliqué. Non, ça va, j'arrive à dormir.
Quel rythme ?
Et
c'est fou.
En effet, c'est. Et puis le rythme du français aussi qui demande beaucoup d'énergie et qui demande d'être calme, justement, surtout.
Ouais.
C'est suite à avoir. Quand on a beaucoup de projets, un rythme effréné où on joue pratiquement tous les soirs et la journée de tourner ou de répéter des spectacles, il faut pas s'affoler quoi. Donc il faut trouver un calme intérieur, et en se disant l'objectif est la première et d'y avancer étape par étape, mais c'est magnifique.
On arrive à la fin de notre échange.
Déjà.
Le temps passe vite.
Ouais.
J'ai toujours les mêmes questions en fait, à vrai dire, que je pose en fin d'interview. C'est un coup de cœur, un coup de gueule. Et une question qui peut sembler politique, mais qui ne l'est pas, mais c'est votre vision de la France. Et ce n'est pas politique, attention.
Ouais. Alors, ma vision de la France.
Votre programme.
Il y a les élections bientôt.
Non, mais c'est vrai que le coup de cœur et le coup de gueule, vous n'êtes pas obligé d'en avoir. Hein. Si vous me dites non, je n'ai pas de coup de gueule, tout va bien.
Ouais.
Coup de cœur, ça peut être... Bah là, vous en avez quand même donné pas mal. Hein, donc, je ne vais pas non plus vous faire répéter ce que vous avez dit. Mais ça peut être, je ne sais pas... une pièce de théâtre, une série que vous regardez en ce moment, si vous avez le temps, parce qu'a priori...
Alors j'avoue que je regarde pas de série.
Ouais.
D'ailleurs, c'est un piège, hein. Je regardais
les
séries,
c'est
un piège.
Ouais, moi, j'ai pas commencé, parce que sinon, je sais que c'est,
voilà.
C'est addictif. Hein.
Exactement, donc souvent, on me dit, tu devrais regarder cette série, et
ouais.
Je suis là en mode, oui, je sais que je devrais, mais pas maintenant, parce que j'arrive pas à dormir sinon.
Ouais.
Un coup de cœur, je dirais, une musique.
Ouais.
Que j'écoute vraiment en boucle, qui s'appelle Mpodol de Blik Bassi, en fait, qui est un interprète camerounais.
Ouais.
Et en fait, c'est absolument magnifique, parce que Mpodol, c'est M-P-O-D-O-L.
Ok.
Et en fait,
je mettrai dans les notes.
Ouais. De l'intérieur. Et c'est absolument magnifique parce que... En fait, je ne saurais pas vous expliquer.
On écoutera
c'est,
tout simplement.
J'ai l'impression, voilà, faut
écouter. On pourrait peut-être mettre un micro extrait en respectant les droits d'auteur, on verra.
Ah, ce serait super parce que c'est magnifique. Et en fait, je vais même vous donner une anecdote là-dessus. Donc, quand j'étais dans le désert et donc j'écoutais, voilà, dans un changement de plan. Donc, on a un peu de temps. Et donc, j'écoute cette musique. Et en fait, j'avais l'impression qu'en fait, c'était toute la nature qui parlait. Et en fait, vous allez voir dans la musique, en fait, il y a une montée qui arrive petit à petit. Et en fait, j'avais l'impression que donc là, il y avait une sorte de falaise. C'est pas une dune, en fait, c'était de la roche d'ailleurs.
Ah ouais.
Et en fait, j'avais l'impression, je ne saurais pas vous expliquer, en fait, qu'elle me parlait, en fait, la nature. Et qui, en fait, surtout qu'elle était vivante, en fait, c'est surtout ça. Qu'elle était vivante. Et absolument magnifique.
Ok.
Et. Un coup de gueule, là, comme ça.
Eh bien, c'est pas grave si vous en avez pas.
j'ai pas de coup de gueule.
Tant mieux.
Voilà, faut...
Tant mieux. Bah, il faut l'assumer, hein.
Ouais,
c'est
bien
normal,
sûr.
Hein.
Ouais,
ça peut arriver, c'est pas très grave.
Ouais, ouais.
Non, et puis, je sais pas, peut-être un petit message que vous avez envie de passer, quelque chose que vous avez envie d'ajouter.
Quelque chose que j'ai envie d'ajouter. Alors là, je sais pas. Bah là, en plus, c'est... Il y a les élections qui vont arriver maintenant, bientôt, donc c'est...
Mais si vous ne voulez pas répondre à cette question, on
non, 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 bien sûr, mais c'est juste, moi, j'espère surtout qu'on ne va pas céder à la panique et à toute cette division qu'on essaye de créer et que, justement, cette France, elle est magnifique dans toute sa diversité et que toutes ces différences, en fait, en font une richesse. Et j'espère justement, faut être idéaliste en fait finalement, parce que ça peut paraître un peu bisounours de se dire qu'on espère qu'il n'y ait pas de différence, mais en fait je pense qu'il faut rêver en fait pour avancer, il faut rêver, et c'est toutes ces victoires en tout cas qu'on peut obtenir, elles se font étape par étape, et il faut voir toutes ces petites victoires en effet, et j'espère en fait surtout que dans un avenir proche, ce vivre ensemble va réellement exister, réellement.
Mmh.
Et que ce soit pas dans l'idée, que ce soit plus dans l'idée en fait, que ce soit plus dans l'idée, que ce soit dans les faits, et que ce soit non plus dans les paroles, mais dans les actes et dans le regard. En fait, j'espère que le regard va changer, réellement.
Mmh.
Et voilà, c'est un peu ce que j'espère. Et voilà, et commencer par soi en fait, c'est-à-dire que même moi en fait j'y travaille. C'est pas le travail des personnes qu'on a en face de nous, ou qui que ce soit, ou dès qu'on entend ça. Non, non, c'est tout le monde. On est tous responsables de ça.
Je suis d'accord. Biran, merci beaucoup.
Merci.
C'était un plaisir d'échanger avec vous, et puis bonne continuation pour tous vos beaux projets.
Merci beaucoup, c'était un grand plaisir.
Au revoir.
Au revoir.
Voilà les amis, c'est la fin de cette interview, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager l'épisode via les plateformes d'écoute comme Acast, Apple Podcasts, Spotify ou votre application de podcast préférée. Le partage et la notation du podcast sont super importantes pour moi, donc je compte sur vous pour mettre des étoiles et des commentaires là où c'est possible. Pour vos suggestions d'invités, n'hésitez pas, je suis joignable sur le compte Instagram du podcast Réel Podcast. Merci encore à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à écouter Réel, et à très vite pour un prochain épisode.